Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
Il faut que la manière de raconter les luttes féministes change.
Vous aurez beau dire les choses avec le plus grand des sourires, avec la voix la plus douce possible, à partir du moment où vous vous définissez comme féministe, vous allez déranger. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle.
Que l'aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley.
Bienvenue dans l'Instant Féministe, un podcast proposé par Radio Bulle et l'association La Mèche.
Bonjour à tous, je suis Charlotte de La Mèche et nous sommes aujourd'hui avec Elio et Mathie de AIDS.
Salut!
Bonjour!
Vous écoutez l'Instant Féministe, le podcast animé et réalisé par l'association à jeunesse La Mèche sur Radio Bulle, fréquence 93.6. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des transidentités. Mais avant de commencer, on va se présenter. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y.
Je vais commencer. Moi, je m'appelle Elio. Mes pronoms, c'est il. Je suis donc une personne trans non-binaire. Et je travaille au sein de l'association AIDS avec Mathie.
Salut, moi c'est Mathie, j'utilise le pronom Yel et je suis une personne non-binaire. Et je travaille aussi pour l'association AIDS à Bordeaux, Agen et Périgueux.
Ok, bah, du coup moi c'est Charlotte, je suis une femme cis et je suis bénévole au sein de La Mèche. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une personne transgenre, donner une définition ?
Du coup, une personne trans, la définition la plus simple qu'on pourrait donner, je pense, c'est une personne trans est une personne dont le genre est différent de celui qu'on lui a assigné à la naissance. Exemple, moi, je suis une personne non-binaire. On m'a assigné à la naissance le genre femme. Les deux sont différents, donc ça fait de moi une personne trans.
Et j'ajouterais que derrière ce terme de personne trans, il y a vraiment toute une panoplie d'identités. Donc c'est pour ça qu'on parle de transdiversité ou de transidentité au pluriel, parce que ça regroupe d'autres identités. On appelle ça un mot parapluie, le mot trans. Et donc on y retrouve les personnes non-binaires, les personnes gender fluid, genderfuck, agenre, et toutes les personnes en fait, qui ne sont pas cisgenres. Donc voilà.
Du coup, est-ce que vous pourriez expliquer ce que signifie cisgenre en opposition à transgenre, du coup ?
Donc une personne cisgenre, ou on va dire aussi une personne cis, rien à voir avec le chiffre, c'est CIS. C'est donc une personne où en fait le genre actuel est en accord avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Voilà.
Ok, très bien. Et donc du coup, il est important aussi de rappeler que le genre n'est pas égal au sexe, que ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus expliciter ?
Pour nous, le sexe est vraiment donc une référence à l'aspect biologique des personnes. Vraiment, on va parler des organes génitaux. Et en fait, le genre, c'est vraiment plus une réalité vécue. Donc comment est-ce qu'on se sent en tant que personne ? Et on peut très bien se sentir femme en ayant un pénis, ou bien... homme en ayant un vagin, il n'y a pas de problème là-dessus.
Ok, donc du coup, pour reprendre ce que vous disiez, le genre c'est une identité sociale, c'est construit socialement, c'est pour ça que ça peut varier aussi selon les époques, selon les régions du monde, etc. Et c'est ce qui explique donc que le genre n'est pas forcément lié au sexe, et inversement.
Oui, en lien avec cette différence entre sexe et genre, je pense que c'est bien de la prendre en compte réellement, y compris quand on s'intéresse aux personnes trans et aux transidentités, pour arriver à comprendre le fait que le sexe et le genre étant des choses différentes, les personnes trans font pas forcément des transitions qui sont en lien avec leurs organes génitaux. C'est pas forcément le but d'une transition, c'est pas l'objectif, c'est pas forcément la finalité, comme c'est des choses très distinctes, ça peut toucher au corps, mais ça peut aussi ne pas du tout toucher à ça.
Et puis, si on part du principe qu'un homme égale un pénis et qu'une femme égale un vagin, on exclut totalement de nos discours et de nos représentations les personnes intersexes, qui sont des personnes qui naissent avec plusieurs caractéristiques à la fois dites féminines et dites masculines, donc dès leur naissance, et qui subissent souvent des mutilations très précoces, justement de chirurgie, pour que ça corresponde à l'idée qu'on se fait d'un homme ou d'une femme. Et puis en plus, c'est vraiment à l'observation, c'est vraiment le médecin à la naissance qui va décider à ce moment-là d'un genre, en fait, et c'est problématique aussi.
Et donc maintenant, on pourrait passer aussi rapidement sur le fait que les transidentités ont toujours existé, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Il y a toujours eu des personnes trans, il y a eu des sociétés où il n'y avait pas du tout ce partage binaire des genres. Et les notions ont été très différentes. On a deux exemples ici. Par exemple, au début du XXe siècle, Virginia Woolf écrivait Orlando, un roman qui retrace l'épopée d'un personnage clairement trans qui fait des voyages dans le temps en changeant plusieurs fois de genre. Il y a aussi le podcast de Clovis Maillet qui émet l'hypothèse selon laquelle Jeanne d'Arc était trans. Donc c'était un podcast sur la poudre qui est intéressant et qu'on vous recommande. Je ne sais pas si vous avez aussi d'autres exemples qui pourraient montrer que oui, les transidentités ont existé depuis très longtemps et depuis toujours.
J'ai un exemple au Canada. En fait, il y a les populations autochtones du Canada. Il existe en fait trois genres. Donc il y a homme, femme et puis il y a ce qu'on appelle les deux esprits. Donc en fait, parce qu'ils ont justement les deux esprits dits féminins et dits masculins en eux. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'en fait, avant la colonisation, donc avant que les Européens arrivent au Canada, ces personnes-là, les deux esprits, étaient des sortes de leaders de la société en fait. C'était vraiment vu comme des personnes sages qu'il fallait consulter, etc. Et qui jouait un rôle de guide, et puis la colonisation est arrivée, et les valeurs et les visions occidentales aussi. Et depuis ce moment-là, les personnes two-spirit, donc deux esprits, sont marginalisées, vulnérabilisées, et parfois violentées.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la binarité de genre telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle, c'est une vision hyper occidentale et qui n'est pas du tout universelle. Et aujourd'hui, si on la retrouve autant dans le monde, c'est parce que justement, il y a eu cette colonisation qui l'a répandue. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui serait naturellement universel ou présent partout. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper social. Et du coup, chaque société a un rapport différent au genre. Et après, on n'est pas du tout les premières personnes à mettre en avant le fait que les transidentités existent depuis de nombreuses années. Et Jeanne d'Arc, moi, j'en avais déjà entendu parler. Le truc compliqué aussi qui est mis en avant dans ces recherches-là sur les transidentités qui datent depuis très très longtemps, c'est qu'en fait, les mêmes termes n'étaient pas forcément utilisés, qu'il n'y avait pas les mêmes vécus, que forcément les personnes ne se disaient pas forcément trans, et que en fait, du coup, c'est très compliqué d'arriver à poser ces mots de transidentité sur des vécus qui n'étaient pas formulés de la même manière. Mais c'est vrai que par contre, ça fait des années qu'on retrouve en fait des vécus différents par rapport au genre, quoi.
Donc du coup, maintenant, on va pouvoir passer à un problème aussi qui touche les personnes trans, qui est la transphobie qu'elles subissent. Déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi la transphobie ? Dans un premier temps, donc, les transidentités inquiètent car elles confirment ce que les instances religieuses nomment la théorie du genre. Les transidentités relèveraient alors d'une idéologie qu'il s'agirait de combattre au même titre que l'homosexualité et le lesbianisme pour préserver un ordre moral et une conception de la famille stabilisée depuis des siècles. Ensuite, les transidentités sont perçues comme étant menaçantes car elles bouleversent un ordre binaire du genre. Nous ne sommes plus alors dans une division sexuelle classique homme-femme. Parler des transidentités dans une perspective intersectionnelle, c'est aussi montrer qu'au sein de l'objet politique femme, des hiérarchies et des rapports de domination existent entre les femmes cisgenres et les femmes trans. Enfin, dans la culture, les transidentités ont toujours été présentées comme des objets de brimade, d'humour, en réalité de transphobie. De nombreux films, livres utilisent par exemple des termes désuets comme transsexuel pour parler de la transidentité alors qu'il a été établi que ce terme revêtait un aspect pathologisant. C'est comme si les transidentités étaient quelque chose à soigner. Donc du coup, juste pour revenir sur le terme de transphobie, ça traduit toutes les violences que peuvent subir les personnes trans. Et aussi, on rappelle que vous pouvez peut-être un peu plus développer sur ça, mais que les personnes trans, la transphobie, elles la subissent dans tous les aspects de leur vie au quotidien. C'est pas seulement des phénomènes isolés, mais c'est quelque chose qui est même systémique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Déjà, avant de développer là-dessus, j'aimerais aussi ajouter qu'en fait, en tant que personne trans, on subit vraiment deux choses assez... comment dire, contraire et en même temps qui font du sens ensemble, mais où il y a une forme de moquerie, de dégoût et en même temps de forte attirance, de fétichisation des personnes trans. On voit les personnes trans sur les applications de rencontres subissent soit l'un soit l'autre, soit les deux des mêmes personnes. Mais il y a vraiment ce truc de rejet, attirance qui est vraiment, je trouve, à lier au fait que ce soit autre en fait à soi-même et autre que l'ordre établi qu'on connaît. Et donc il y a ce phénomène un peu de, je reprends les termes, mais de bizarre peut-être.
Donc du coup, par rapport à la transphobie et plus généralement par rapport aux LGBT-phobies, il y a une journée dédiée qui se déroule chaque année internationalement le 17 mai. à Agen, on a, plusieurs associations ont pris l'initiative de faire des actions le 17 mai et le 21 mai. Et notamment le 17 mai, il va y avoir une table ronde pour combattre la transphobie qui a été écrite et qui va être animée par Elio et Mathieu qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel intérêt de faire ça et quel public vous visez ?
Ben, l'idée de, je pense, encore une fois, tu me complètes, Mathis, si jamais je m'égare, mais c'était de donner des clés aux personnes pour comprendre ce que c'est la transidentité. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de transphobie qui est due à de la méconnaissance et à de l'ignorance. Et l'idée, c'était vraiment de faire une table ronde très concrète, en fait, de donner des outils aux personnes pour comprendre de façon très concrète de qu'est-ce que ça veut dire être une personne trans, comment on peut les prendre en compte au quotidien pour éviter justement toute forme de transphobie. Et puis laisser aussi à la fin un moment d'échange avec les personnes pour que les personnes puissent poser leurs questions, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a énormément de personnes cis qui ont plein de questions par rapport à la transidentité et qui ne trouvent pas forcément les moments pour les poser et qui ne trouvent pas leurs réponses. Et du coup, c'était essayer d'offrir ce moment-là. Ouais.
Moi, je pense que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec le terme de transphobie, mais tout comme homophobie, parce qu'ils voient vraiment le mot phobie, peur et agression, violence, etc. Alors que bien souvent, c'est juste des gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas d'espace, en fait, pour poser leurs questions, qui n'ont pas de personnes trans ou alors ils ne le savent pas autour d'eux à qui les poser. Et donc, et puis en plus, en tant que personne trans, on est quand même sursollicité sur ces questions-là. Mais donc, on voulait, c'est ça, offrir un espace où les personnes pourraient poser leurs questions, on pourrait donner les bases avec vraiment des choses très concrètes comme quoi ne pas dire à une personne, comment accueillir une personne trans, comment quand on se trompe et qu'on mégenre une personne, donc mégenrer une personne, c'est utiliser un pronom qui n'est pas le sien. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on mégenre une personne, donc vraiment des clés très concrètes pour la vie de tous les jours, parce que on pense que c'est comme ça aussi qu'on luttera contre la transphobie, en donnant des clés aux personnes et pas forcément en créant non plus des clivages qui vont juste alimenter en fait les tensions.
Et du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez donner des sources où on pourrait se renseigner, en apprendre un peu plus sur la transidentité, mais aussi peut-être des lieux où on pourrait aller directement en tant que personne trans ou une personne même cis qui aimerait se renseigner dessus ?
Moi, je trouve qu'un super bel outil pour en apprendre plus sur les transidentités, surtout en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de comptes Instagram et beaucoup de créateurs, créatrices trans et non-binaires qui font du travail gratuit, en plus, beaucoup sur Instagram et TikTok. Donc, si vous avez ces plateformes-là, c'est assez facile d'accès. C'est vraiment à dispo, donc je conseillerais ça. Et même pour les personnes qui seraient en questionnement sur leur genre, je trouve que c'est de belles ressources. Et puis sur les ressources physiques, il y a l'association Aide, bien sûr, qui est présente à Agen. Et puis il y a aussi le planning familial qui accueille les personnes trans et qui peut répondre à des questions.
J'ajoute aussi qu'il y a quand même pas mal de podcasts sur tous ces sujets et il y en a beaucoup qui sont très bien faits. Moi je pense à un notamment pour les personnes cis qui pareil se posent des questions et veulent essayer de bien faire. Il y a un épisode du podcast Camille qui s'appelle comment être une bonne alliée des personnes trans, qui est super bien fait et très bien expliqué, donc ça peut être une belle porte d'entrée, je pense, pour commencer à apprendre sur le sujet.
Ouais, puis c'est important de se renseigner auprès de personnes concernées aussi, pour tous les sujets, bien sûr, mais là, on a beaucoup de créateurs, créatrices de contenu qui sont directement concernés, donc qui sont trans ou non-binaires. Et donc, se renseigner directement auprès d'eux, c'est la source la plus fiable qui puisse exister.
Ouais, et se renseigner en discutant avec des personnes concernées, oui, carrément. Et c'est pour ça que toutes les ressources qu'on a citées, c'est des personnes concernées qui parlent dedans. Mais je pense que c'est bien de justement profiter de ces ressources-là pour que les personnes concernées de notre entourage, s'il y en a, ne soient pas une constante source de pédagogie et que ça ne devienne pas lourd. En fait, il y a des choses qui sont créées justement pour faire de la pédagogie. Donc tout ce qu'on a cité, et y compris du coup la table ronde qu'on va faire, c'est aussi pour créer ce moment-là et que ça ne devienne pas, encore une fois, un poids et de la pédagogie à faire constante pour les personnes trans au quotidien, quoi.
Tout à fait. Et aussi, au niveau de moyens pour en apprendre un peu plus sur les personnes trans, il y a aussi la question de la représentation, notamment dans la culture. Et donc effectivement, c'est tout à l'heure, on en parlait, les anciennes représentations qu'on a, même qui sont assez récentes de personnes trans, elles ne sont pas forcément positives, c'est même carrément l'inverse. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire dessus, et notamment des œuvres qui seraient, ou des exemples qui seraient de bonnes représentations à conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Déjà, il y a le documentaire, je ne connais pas le nom en français, je m'excuse, mais Disclosure sur Netflix, qui parle justement de cette représentation-là et qui revient sur l'historique de la représentation des personnes trans et qui interviewe des personnes directement concernées et qui sont acteurs-actrices, parce qu'il y a des acteurs-actrices trans, c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça n'existe pas, les films comme ça. Mais moi, comme représentation, je sais que France TV Slash a fait pas mal de séries, notamment autour de la personnalité Océan, qui est un homme trans et qui a beaucoup médiatisé sa transition, en fait. Donc, ça pose aussi... C'est un parcours de transition parmi d'autres, mais en tout cas, c'est plutôt bien fait. Et puis après, si on veut plus de divertissement, il y a des séries comme Pose, par exemple, où c'est en plus des personnes transracisées et vivant avec le VIH. Donc, on cumule aussi la représentation. Et c'est aussi joué par des acteurs trans, c'est aussi joué par des acteurs séropos. Donc, ça, pour le coup, c'est une bonne représentation. Il y en a de plus en plus, mais on ne croule pas non plus sous le choix.
Non, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller fouiller un peu chez les créatrices queer. Il y a plein de petites pépites, il faut les trouver. C'est beaucoup moins médiatisé, mais il y a quand même pas mal de choses qui se font dans la communauté queer. Moi, je pense aussi à un docu qui a, pour le coup, été plus médiatisé. Hein. Indianara, c'est sur une militante trans en Amérique du Sud. Je ne vais pas m'avancer sur le pays pour ne pas faire de boulettes. Et qui est très, très, très intéressant. Et ouais, il y a pas mal de choses à trouver comme ça.
Et puis, au niveau de la littérature, il y a énormément, je trouve, de romans qui parlent de transidentité, de parcours. Et aussi juste de... Quand je dis parcours trans, c'est vraiment... Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a posé la question quelle est la durée d'un parcours trans? Et en fait, c'est toute la vie. Comme un parcours cis, c'est à partir du moment où tu vis jusqu'au moment où tu meurs. Parcours... L'idée, c'est que une bonne représentation, c'est aussi que les personnes trans ne soient pas que des personnes trans, en fait. Que dans les films, elles aient des histoires d'amour, perdent leur job... fassent tous les trucs que les autres personnes cis que les personnes cis font, et que le sujet de la transidentité ce soit pas non plus le cœur du livre ou du film, genre ah voilà c'est le personnage trans quoi, bah non, on a tous une vie, des émotions et sans doute les mêmes que les personnes cis, donc c'est important aussi.
Et enfin pour finir, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à une jeune personne trans ou en questionnement qui nous écouterait?
Moi, je pense pas hésiter à aller discuter avec des personnes trans, clairement. Je pense qu'il y aurait très peu de chances de se retrouver face à une personne pas bienveillante. Enfin, vraiment, on connaît ce truc d'être en questionnement. Je pense qu'on est tous passés par là et c'est toujours avec plaisir qu'on partage avec d'autres personnes qui passent par là aussi. Et après, je sais pas, se renseigner. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de juste me renseigner, me déconstruire et genre aller choper de l'info, encore une fois sur Insta, mais parce que je partais je me suis déconstruite de la même façon qu'une personne cis pouvait le faire, parce que de toute façon, je partais des mêmes bases. Mais du coup, me blinder d'infos et de juste comprendre tout ça pour essayer de me comprendre moi-même aussi, je pense.
Moi, je dirais que t'es pas seule, parce que ça peut, on peut se sentir très seule dans ces moments-là. Surtout que on manque beaucoup de représentations et que les représentations qu'on a correspondent pas forcément à comment on se sent à l'intérieur. Mais l'idée, c'est qu'il y a autant de transidentité qu'il y a de personnes trans, que c'est ok de pas savoir, que c'est ok. Pour moi, le parcours de découverte de son genre, ça peut être fluide aussi. y a pas, c'est pas soit l'un soit l'autre, y a pas de pression à se mettre là-dessus, je dirais de laisser se découvrir et que s'ils se posent la question, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais que si on trouve pas les mots tout de suite, c'est pas grave, quoi, et que le jour où on les trouve, ça apaise quand même, donc il faut tenir bon.
Ouais, et pas hésiter, je pense, à être patient et bienveillant envers soi-même aussi, parce qu'en vrai, c'est hyper compliqué, et on vit dans une société qui rend pas ça simple du tout. Et ouais, garder une forme de patience et de bienveillance, parce qu'on a l'impression de pas avancer. Je pense qu'il y a des moments où on a l'impression d'être hyper coincé et que ça n'évoluera jamais. Mais c'est pas le cas. On évolue tout le temps et ça se fait petit à petit. Ouais, voilà.
Avant de vous quitter, on vous rappelle que le 17 mai, au passage d'Agen, il y aura une table ronde qui s'appellera « Les clés pour lutter ensemble contre la transphobie », animée et réalisée par Elio et Mati, qui sont avec nous aujourd'hui. Le 21 mai, à Agen, il y aura également des stands associatifs où vous pourrez venir vous renseigner auprès de plusieurs associations. Toutes les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux de la Mèche, de AIDS et aussi du Refuge et de Etchéomo qui co-organisent ces événements. Et enfin, nous vous remercions d'avoir écouté l'Instant Féministe. Donc, c'était Charlotte de la Mèche avec Elio et Mati de AIDS sur Radio Bulle, fréquence 93.6.
Merci.
Merci. Et on vous laisse avec Human Drama de Planning to Rock, qui est une musique interprétée par une personne trans.
Oh yeah.
Been burning up inside day to day, trying to find the words to explain my sexuality. Just a liar.